le Paris du début du XXe siècle, plus précisément au mois de janvier 1910.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
L'une des plus grandes crues de l'histoire de la capitale. La Seine avait atteint 8,62 m. Cette situation pourrait-elle se reproduire ?
RTL.
On n'imaginait pas que Paris puisse être submergé puisque la mémoire s'en était quasiment perdue.
La crue de 1910, elle a surtout été la première photographiée, justement.
La curiosité est un vilain défaut.
Bonjour Isabelle Bacouche.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes historienne, vous publiez un dossier passionnant sur ce mois de janvier 1910, janvier, février, mars d'ailleurs, dans le hors-série du magazine L'Histoire, c'est en partenariat avec RTL. Alors là, on parlait avec Sidonie de ce niveau 8,62 m, donc c'est en janvier 1910, mais est-ce que c'est le plus haut niveau jamais mesuré de la Seine dans l'histoire ?
Non, c'est pas le plus haut. Le plus haut, c'est au XVIIe siècle, en 1658. En tout cas, c'est le plus haut niveau dont on a gardé la mémoire, parce qu'il a été effectivement gravé dans les tablettes de la ville et dans des archives.
Et donc en 1658, c'est combien ? C'est 8,81 m, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, c'est ça.
Encore, 20, beaucoup encore dégâts, 20 cm ouais. De plus.
Impressionnant. Beaucoup de dégâts dans cette crue du XVIIe siècle ?
Beaucoup de dégâts dans une ville où, en plus, il faut imaginer qu'il y avait des maisons sur les ponts, des maisons qui étaient les pieds dans l'eau au bord de la Seine. Donc, on n'a pas, évidemment, autant de traces qu'en 1910, mais la ville a énormément souffert. Et beaucoup de Parisiens ont quitté, d'ailleurs, le cœur de Paris.
Et alors là, si on se projette, on voyage dans le temps, hein, dans cette émission, mais dans notre 21e siècle, la dernière grande crue en région parisienne, c'était quand ?
Il y en a une en 2018, mais la plus impressionnante qui a rappelé 1910, c'est celle de 2016.
C'était monté jusqu'à...
Qui est monté jusqu'à 6,10 m, avec une différence, c'est que c'était une crue de printemps. Donc elle était encore plus surprenante, puisque en général, les crues ont plutôt lieu, on va dire, en janvier-février, à la sortie de l'hiver.
Il y avait eu pas mal de dégâts, je ne me souviens plus, moi, avec ces 6,10 m, on est très loin des 8,62 m, quand même.
Et Paris n'a pas été... on avait quand même de l'eau qui était au ras des quais, certains quais bas étaient couverts, d'autant qu'on s'apprêtait à piétoniser les berges de la Seine, donc du coup, la Seine était un peu sous les projecteurs, mais on n'a pas eu autant de dégâts qu'en 1910. Mmh.
La Seine qui a 8,62 m, donc en 1910, est-ce qu'il y a eu des équivalents pour les autres grands fleuves français ?
En 1910, il y en a eu, mais il y a eu aussi des crues au cours du 19e siècle où, évidemment, Paris n'était pas la seule concernée. Le Rhône, la Loire débordent. En 1856, Lyon est totalement dévasté, toute une série de villes de la vallée du Rhône. Et en 1910, il y a d'autres villes, puisque en fait, les raisons sont climatiques. Donc, c'est un phénomène, on va dire, national, puisque le climat est quand même partagé par un certain nombre de régions françaises.
Il y a eu d'autres grandes villes de province. Vous avez cité Lyon, qui ont été touchées comme ça par des crues. Alors, on dit quoi ? Crues centenales, c'est ça ?
Oui, centenales, parce qu'on. Voilà, les chiffres et les mesures qui ont été accumulées au fil des siècles, mais les mesures se sont surtout précisées au cours du 19e siècle, montrent que, en gros, la fréquence serait une centaine d'années. C'est pour ça qu'en 2010, de nouveau, on a craint, mais finalement, ça s'est décalé un peu dans le temps.
Donc on revient il y a 110 ans, 1910, c'est Paris et l'Île-de-France qui sont frappés par cette crue historique. Est-ce que les pouvoirs publics ont été surpris ?
Oui, et les pouvoirs publics et même la société parisienne a été surprise pour deux raisons. D'abord parce qu'au cours du 19e siècle, notamment avec le baron Haussmann, qui est quand même le grand transformateur de la capitale, il a des alliés techniques, notamment l'ingénieur Belgrand, et ils ont mis en place quelques écluses sur la Seine, un service de surveillance, donc on a l'impression qu'on est vigilant. Et le deuxième phénomène, c'est au tournant du XXe siècle, Paris est la capitale de la modernité. Donc on a maintenant l'électricité, le téléphone, les pneumatiques, des ascenseurs. On a eu une belle exposition universelle et on a un peu le sentiment, on va dire l'illusion, que la technique peut tout vaincre.
Et peut nous protéger. Il y a eu quand même quelques signes avant-coureurs. Vous disiez que les Parisiens, les habitants de la région d'Île-de-France avaient été surpris. Pourtant, l'été 1909, que se passe-t-il ? C'est un été quoi ? Pluvieux, c'est ça, on l'imagine ?
En fait, voilà, c'est ça. C'est le cumul d'un été extrêmement pluvieux, où les sols se sont gorgés d'eau. Et de nouveau, à partir de fin décembre et janvier, des pluies très importantes. ce qui a, les sols étant saturés, provoqué un débordement des affluents de la Seine, puis de la Seine.
Et puis en janvier 1910, il y a 6 lignes de métro qui sont déjà en service, il y a d'autres aussi qui sont en chantier, et c'est là que la première catastrophe survient. Que se passe-t-il le 21 janvier 1910 ?
Eh bien, c'est vrai que ces lignes de métro et puis tous les réseaux d'égouts qui avaient été aménagés à partir de la fin du 19e siècle sont à la fois, comme je disais tout à l'heure, la modernité, le transport, l'évacuation. Et en même temps, le sous-sol est fragilisé parce qu'il est quand même creux. Et c'est par là que finalement les eaux vont commencer à surgir, loin de la Seine, assez finalement, puisqu'on va avoir des lacs qui vont se constituer vers la gare Saint-Lazare ou vers le boulevard Saint-Germain, c'est-à-dire il y a des affaissements du sol. Et là, on voit effectivement l'eau qui a commencé finalement à se répandre d'abord dans le sous-sol, et notamment en empruntant les couloirs de métro qui étaient en construction.
Donc l'eau s'est infiltrée dans le métro, dans les égouts, et a ressurgi, en beaucoup plus loin de la Seine.
C'est incroyable cette photo.
Devant Saint-Lazare, il y a une photo dans le magazine L'Histoire.
C'est un vrai lac devant la gare Saint-Lazare.
Voilà, imaginez, je sais pas, la Seine devant la gare de votre ville, la gare Saint-Charles à Marseille, les gares Saint-Jean à Bordeaux ou à Nancy, Matabiau à Toulouse. Bref, voilà, visualisez un lac devant la gare de votre ville. Comment réagissent les autorités de l'époque ?
Alors, sur ces photos, c'est vrai que la photo a joué un rôle très important pour marquer cet épisode qui a envahi la ville. On n'est pas seulement par des informations orales ou écrites. La photo a beaucoup gardé ce souvenir. Alors, il va y avoir une mobilisation générale des pouvoirs, le président de la République, le président du Conseil, et puis en première ligne pour Paris, puisque c'est lui qui a la charge, on va dire, de la sécurité et de la surveillance, c'est le préfet de police, Louis Lépine, qui va donc être sur le terrain et tenter de rassurer et de mobiliser tous les hommes qui peuvent intervenir.
RTL.
1910, année terrible où l'on vit la Seine sur le parvis de Notre-Dame et les députés obligés de se rendre à la Chambre en bateau. Si la gare Saint-Lazare baignait dans l'eau, c'était bien pis du côté de la gare des Invalides. Plus question d'y prendre le train. Tout au plus aurait-on pu s'y promener en barque.
La curiosité est un vilain défaut.
Le Paris de 1910, c'était une espèce de Venise improvisée, sans gondole ni romance, où l'on quittait le bateau pour la passerelle de planche et où la vie devenait un tour de force.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Incroyable archive reportage de 1955 sur la crue historique de la Seine. C'est le programme de notre curiosité sur RTL avec l'historienne Isabelle Bacouche. Vous publiez dans le hors-série du magazine L'Histoire un article sur ce thème. C'est en partenariat avec RTL. Alors on est dans les premiers jours, dans les derniers jours de janvier 1910. Et depuis le 21 janvier, il y a un lac, vous nous l'avez expliqué, qui s'est formé devant la gare Saint-Lazare parce que l'eau s'est infiltrée dans les égouts, dans les tunnels de ce nouveau métro qui fait la fierté des Parisiens et des Français aussi. Et donc cette eau, elle rejaillit, la ville est complètement paralysée. La marine débarque. Comment elle débarque ? Comment elle circule à canot comme comme les députés qui vont à la Chambre ?
Exactement. On a envoyé des marins de Brest, la marine de Brest. Ils ont l'habitude. Ils ont le pied marin et ils sont arrivés avec des canots à fond plat. Et on a mis quasiment en service des moyens de transport collectif avec ces canots. Il faut ajouter aussi toutes les passerelles que les Parisiens ou les riverains des rues ont construites, des passerelles de fortune pour pouvoir quand même se rendre à un commerce de proximité ou pour pouvoir circuler dans un rayon minuscule.
Ça ressemble à Venise, quoi, en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Mais une aqua alta assez impressionnante. Et toute la ville est paralysée, c'est-à-dire les usines sont arrêtées, parce qu'on parle de Paris, mais c'est la banlieue aussi, c'est-à-dire que c'est toute la région parisienne qui est touchée. Les usines sont arrêtées, les usines notamment de traitement des déchets, donc là, évidemment, c'est problématique. D'ailleurs, on jette dans la Seine un certain nombre d'ordures. Les ascenseurs, les trams, évidemment. Donc, voilà, on a un Paris marin pendant quelques jours.
Mais les gens sont cloîtrés chez eux, c'est ça ? On ne sort plus ou que pour des grosses urgences ?
Voilà, beaucoup ne vont pas sortir. Il y en a certains qui ont réussi à partir, mais la grosse majorité de la population reste sur place quand même, en se disant que ça va finir par descendre.
Mais pour bien comprendre, les immeubles qui sont les plus proches du fleuve, Il y a de l'eau quoi, jusqu'au premier étage. C'est quoi le niveau?
Il y a de l'eau qui a pu monter. Alors, les halls ont été effectivement envahis et parfois les premiers étages ont pu être touchés. Mais bon, c'est vraiment pour les immeubles qui étaient quand même tout près de la Seine, on avait construit quand même des quais maçonnés qui protéger un tout petit peu, avec quand même des effets paradoxaux, parce que quand on enserre un fleuve dans des quais hauts, évidemment, on peut provoquer des débordements encore plus importants, un peu plus en amont ou en aval. Mmh.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure du préfet Lépine, c'est le père du fameux concours Lépine que tout le monde connaît, dont on parle régulièrement sur RTL, et notamment dans la curiosité. C'est un peu le personnage central de cette crue de 1910.
Oui, c'est lui qui va être aux commandes, puisqu'il faut quand même rappeler que Paris n'a pas de maire.
Oui.
C'est Jacques Chirac qui sera le nouveau premier maire, on va dire, du XXe siècle pour Paris. Donc c'est le préfet de la Seine et le préfet de police qui sont aux commandes. Et face à un tel événement, c'est le préfet de police qui a vraiment toute marge de manœuvre. Mais le président de la République, Armand Fallières, sera aussi sur le... Il visitera les sinistrés.
Donc... Alors, on a parlé de la marine, pardon Sidonie, mais la marine nationale. Mais j'imagine que tous les moyens de l'État sont mobilisés. Je ne sais pas, la police, l'armée...
La police, les pompiers. Il y a des artilleurs qui vont aussi venir de plusieurs casernes pour aider les gens, pour aider à secourir, à évacuer certains malades parfois. On est quasiment mobilisés comme en temps de guerre.
Vous disiez la marine de Brest. Pardon, si je ne vais pas vous interrompre.
Je vais rentrer chez moi.
Mais non, la prochaine est pour vous, c'est sûr. Vous disiez la marine est venue de Brest. Les artilleurs, ils venaient de différentes régions de France.
Oui, ils sont venus de. Il y en avait qui venaient de Lorraine, il y en a qui sont venus du centre. On a fait venir des régiments sur la capitale pour faire face.
Vous disiez, les Parisiens sont cloîtrés chez eux, ils peuvent sortir juste pour quelques urgences. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une solidarité qui se met en route et pour les Parisiens entre eux? Parce qu'il faut quand même continuer de se nourrir. Ça dure plusieurs jours. Plusieurs semaines, plusieurs mois même, on fait comment?
Alors, en fait, la crise et la crise aiguë, ça va être quand même fin janvier, février. Mmh. Mais il y a toutes sortes d'œuvres charitables et d'associations qui vont entrer dans le jeu et qui vont... Les associations charitables, notamment des associations comme Saint-Vincent-de-Paul, qui vont servir des repas. Il va y avoir des cantines qui vont s'installer. Et puis, des associations qui avaient été reconnues d'utilité publique par la Croix-Rouge. Surtout des associations de femmes, d'ailleurs, comme par exemple l'Union des Femmes de France ou l'Association des Dames Françaises. Et en fait, toutes ces associations avaient été fondées après la guerre de 1870 pour pouvoir, en cas de nouveau conflit, mais on sait qu'après 1870, la revanche est quand même à l'horizon, donc on ne sait pas quand une autre guerre pourrait survenir. Et ces associations sont donc prêtes, elles sont efficaces, elles sont organisées par secteur, et elles vont servir des repas, secourir les malades. C'est une sorte de répétition générale de finalement le rôle qu'elles vont jouer en 14-18.
Oui, on ne le sait pas, mais ça a servi de répétition générale. Donc il y a le versant positif de l'humanité avec cette solidarité généralisée qui se met en place. Et puis il y a l'autre versant, et là, il faut lire les journaux d'extrême droite de l'époque. Que raconte-t-il Isabelle Bacouche?
Alors, il doit y avoir des élections au mois d'avril. Donc, on est dans un contexte en pré-campagne électorale. Et il va y avoir une offensive nationaliste. Les nationalistes sont assez puissants à Paris depuis 1905. Et l'Action française, le journal de Charles Maurras, ainsi que Charles Drummond, Édouard Drummond, qui a un journal qui s'appelle La Libre Parole, qui est ouvertement antisémite, qui a publié La France juive. Il va y avoir ils vont répandre une rumeur et il va y avoir l'idée d'un complot qui serait le suivant, c'est que les sociétés qui exploitent le bois en amont de Paris, à l'est de Paris, auraient déboisé tellement abusivement, et là on est sur le thème de ces sociétés donc tenues par des juifs qui veulent faire du profit et donc qui ont été trop loin dans le déboisement. Et c'est en raison de ce déboisement abusif que les conséquences ont été très violentes sur Paris. On lit dans la Libre Parole le slogan que la Gaule chevelue, donc là en référence à la France, un pays nationaliste de toujours, serait devenue une France chauve. Et donc là, il y a un déchaînement antisémite à propos de la crue.
Est-ce que le gouvernement arrive à faire cesser ces rumeurs ?
Oui, évidemment, le gouvernement, il y a des journaux qui vont faire qui vont démentir, mais c'est vrai que, en fait, là, on a vraiment le phénomène classique d'un bouc émissaire, en l'occurrence les Juifs. Mais on est aussi dans un contexte, dans le contexte de l'affaire Dreyfus. Donc la France a été totalement déchirée et animée par l'affaire Dreyfus jusqu'en 1906. Mais les restes et les marques sont encore importantes. Alors le gouvernement va essayer, on va dire, de faire une réponse rationnelle en nommant une commission des inondations avec un polytechnicien qui donc décide, fait un rapport et prend des mesures pour rassurer et calmer le jeu.
Je vous dis qu'il ne fait pas bon être dehors par ce temps.
Oh ben c'est original ça.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Alors, je sais bien que la météo a toujours été une préoccupation importante des Français, mais il en faut plus.
Sur RTL.
Billet du service de navigation. Il prévoit une montée des eaux sans gravité. Aucune inondation n'est à prévoir sur la capitale, à condition que les pluies cessent. Mais ils viennent de fermer la navigation. Car le passage sous les ponts de Paris devient critique.
La curiosité est un vilain défaut.
Imaginez la place Stanislas à Nancy, la promenade des Anglais à Nice ou la rue Sainte-Catherine à Bordeaux complètement submergée. C'est ce qu'ont vécu les Parisiens il y a 110 ans. La crue de la Seine, le fameux zouave du pont de l'Alma qui a de l'eau jusqu'au menton, 8,62 m et des dizaines de milliers de familles à la rue. L'historienne Isabelle Bacouche nous raconte cette crue historique. Est-ce qu'il y a eu des morts dans la capitale à cause de cette crue ?
Oui, on compte un mort, un caporal qui a tenté de livrer un pneumatique.
Pneumatique, c'était un courrier,
oui,
c'est ça ?
Oui, c'était un courrier express.
Ouais. Donc il s'est noyé ?
Oui, c'est ouais. Ça. Et puis, il y a eu des morts aussi dans la banlieue quand même parisienne. Donc, des gens qui ont été surpris par les eaux, des gens qui n'ont pas réussi à se sauver. Hein. Mais enfin, il n'y a pas eu non plus des milliers de morts.
Ce n'est pas énorme par rapport à l'ampleur de la crue quand on y réfléchit et aux milliers de personnes qu'il a fallu évacuer.
Il a fallu évacuer les gens. Il y a eu quand même aussi de l'entraide avec ces associations entre voisins. Et puis, peut-être qu'il y avait aussi, ça c'est pas très documenté par les historiens, mais des secours locaux qui sont intervenus à l'échelle de chaque commune et qui ont permis justement de limiter le nombre de décès.
Alors on l'a dit, le pic de cette crue, c'était le 28 janvier 1910. Combien de temps la Seine va mettre pour regagner son lit ?
Alors elle va descendre très très doucement et c'est le 15 mars qu'elle regagne son lit. C'est donc énorme. Ça fait presque un mois et demi où progressivement elle va se retirer. On va donc découvrir l'ampleur des dégâts, les boues, la vase, les équipements qui ont été endommagés et qu'il faudra réparer.
Le métro, par exemple, est durablement
Oui, il va falloir abîmer, nettoyer, dégager. Enfin, d'abord, il faut attendre que ça sèche. Et puis, les chantiers qui étaient en cours vont aussi reprendre très doucement. Donc, les conséquences, on va dire, économiques sont à beaucoup plus long terme que le 15 mars. On va mettre en place des bûchers pour brûler les déchets qui avaient quand même été accumulés. Et on craint, dans ce début du XXe siècle, on est obsédé, les médecins, les hygiénistes, par l'insalubrité et on a peur des épidémies. Donc on va essayer d'éliminer le plus vite possible tout ce qui a été déposé par la crue et tout ce qui n'a pas pu être évacué.
Quand vous dites on fait brûler les déchets, il faut imaginer les scènes, c'est quoi des mondes ?
Des grands bûchers, oui, ouais. On va vers des grands bûchers de fortune. Tout ça, c'est évidemment la police et les pompiers qui vont s'en occuper. Ce n'est pas les Parisiens qui font chacun leur petit feu de joie. Mais voilà, on a une ville qui essaie de sortir de la paralysie et surtout, finalement, de retrouver un visage propre.
Et en Île-de-France, il y a eu beaucoup de communes qui ont été touchées, dévastées par cette crue.
À peu près toutes les communes qui étaient riveraines de la Seine. Donc il suffit de prendre une carte pour voir que à Joinville, par exemple, on a eu... parce qu'il y a la Seine, mais la Marne aussi a quand même un petit peu débordé. Donc oui, c'est à l'échelle de toute l'Île-de-France. C'est difficile de donner un chiffre, mais ceux qui ont tenté de chiffrer parlent de 400 millions de francs de dégâts, ce qui fait à peu près 1,6 million d'euros. Ça paraît pas énorme, mais pour l'époque, c'était quand même des sommes conséquentes.
Isabelle Bacouche, quelles sont les leçons qui sont tirées de cette crue de 1910 ? Est-ce qu'on change la physionomie des bords de Seine, les immeubles, les rues, les bouches d'égout ? Qu'est-ce qui va être modifié ?
Alors, il y aura une nouvelle crue en 1924, si bien que les mesures vont être prises pour effectivement créer des barrages avant Paris, c'est-à-dire en amont de Paris, pour retenir l'eau en cas de crue. Et 4 retenues vont être construites avant 1945, qui vont être encore améliorées après la Seconde Guerre mondiale.
C'est ce qu'on appelle les barrages réservoirs.
C'est les barrages réservoirs qui peuvent retenir à peu près 800 millions de mètres cubes, mais il faut garder à l'idée que ça représente un quart des eaux qui ont envahi Paris en 1910, ce qui veut dire qu'on n'est pas du tout à l'abri d'une nouvelle crue.
Alors justement, s'il y avait une nouvelle crue, puisqu'on dit c'est une crue centennale, donc voilà, une par siècle, on a dépassé on est à 110 ans. Quel impact ça pourrait avoir dans une ville, dans une région qui s'est urbanisée à grande vitesse?
Alors, ça serait effectivement beaucoup plus dévastateur, parce que la ville s'était étalée, parce que il y a des constructions en zone inondable qui se sont faites, notamment après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que là, on n'a pas tiré les leçons. Il y a à peu près 800 000 habitants de la région Île-de-France qui vivent en zone inondable, et donc qui seraient les premiers exposés. Et puis, la ville s'est densifiée, la ville est plus haute. Et sur ce qu'on disait sur la fragilité des sous-sols, la leçon n'a pas été vraiment tirée, parce qu'il y a des hôpitaux modernes qui se construisent avec des sous-sols où on met des blocs opératoires et des machines. À l'époque, il n'y avait pas Internet, mais en général, on a tendance à mettre beaucoup de systèmes techniques de communication en sous-sol. Et là, donc, ça serait la paralysie, mais ça serait dévastateur.
Mais est-ce que, quand même, avec les moyens météorologiques qu'on a aujourd'hui, 110 ans après, on pourrait prévoir cette nouvelle crue ?
Le problème, c'est que c'est des éléments naturels et que on peut prévoir des pluies, mais on peut pas prévoir la quantité, et que les prévisions ne peuvent pas se faire à 8 jours ou à 15 jours. Elles peuvent se faire à 2-3 jours. Donc, par exemple, pour les mesures de sécurité qui ont pu être adoptées, c'est vrai qu'on a imposé à beaucoup de musées, notamment le musée du Louvre, qui est quand même au bord de la Seine. Ils ont maintenant des plans d'évacuation, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont dans les sous-sols.
Et oui.
Donc, il y a quelques administrations qui ont ces plans de sauvetage, mais voilà, il faut encore avoir le temps de les mettre en œuvre avant d'être débordés, finalement, par les eaux quand elles arrivent. Donc, non, le phénomène naturel reste quand même surplombant par rapport à tous nos moyens techniques modernes.
Et c'est vrai que toutes les entreprises, les grandes entreprises qui sont en bord de Seine, qui pourraient être concernées, ont des plans d'évacuation, des plans pour continuer à tourner, même si l'eau monte, etc. Oui, parce que vous n'êtes pas loin de la Seine.
Ouais.
Bon, ben voilà, va falloir vérifier, peut-être vous acheter une pompe au cas où pour
pouvoir
évacuer l'eau. Merci beaucoup Isabelle Bacouche, on peut vous lire dans le magazine hors série L'Histoire, 5000 ans de catastrophe, voilà le titre de ce magazine, et puis aussi dans ce livre publié chez Hachette Paris, au fil de la Seine, merci.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.